Alors, nous avions parlé d'Antoine, première partie de l'ouvrage, d'un exil à l'autre. Je rappelle, nous sommes avec Claude Hiéna, donc, qui a écrit un ouvrage de réflexion avec une méthodologie, je dirais, anthropologique, hein, d'aller chercher les récits de vie et pas les statistiques, hein, pour réfléchir à la question d'exil et de migration. Donc, vous nous avez raconté un petit peu les grandes lignes de l'exil de votre grand-père, Antoine, enfin, qui est devenu Antoine une fois en France. Et puis, vous le mettez en parallèle avec un autre exil, un siècle après, celui de Boubacar. Alors, qui est Boubacar ? Parce qu'il est toujours là.
Oui, en 2021, Boubacar est un Sénégalais. Il habite à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. Et il se trouve qu'à Saint-Louis, il y avait une activité de pêche très importante qui permettait de nourrir des milliers de personnes. Il y avait les pêcheurs, mais après, il y avait les femmes qui nettoyaient le poisson et qui le vendaient dans la rue. Il y avait les enfants qui servaient aussi de portage vers les lieux de consommation. Donc, il y avait toute une activité frénétique autour de l'arrivée des poissons. Mais le problème, c'est que la montée des eaux a fragilisé la protection de digues qui permettaient de protéger le port. Et les bateaux étaient nombreux à se renverser parce que la lame de fond était très importante et bousculer les pirogues. Et donc, au-delà de ce danger, il y avait aussi une remise en question de la ressource halieutique, hein, puisque les poissons étaient de plus en plus rares, car ils étaient pêchés par des bateaux-usines qui venaient d'Europe ou qui venaient d'Asie et qui raclaient les fonds marins, détruisant ainsi une bonne partie de la ressource. Donc on avait à Saint-Louis, on a toujours à Saint-Louis, des barques, des pirogues disponibles. Et évidemment, il ne s'agit même pas de passeurs, il suffisait d'aller simplement trouver le propriétaire qui remplissait la pirogue. Et ensuite, c'était vous-même, en contrepartie de la moitié du tarif, qui allait conduire la pirogue à 50, à 100, à 200. Donc on pouvait, en fonction de la pirogue, la remplir. Et puis, c'est un départ vers les Canaries, qui est l'île espagnole en face du Sénégal, un peu plus haut, au nord mais en face. Et c'est à peu près 7 jours de traversée vers les Canaries, où là, on espère ensuite être rapatrié en avion vers les communautés solidaires espagnoles, parce qu'évidemment, les Canaries accueillent aux alentours de 15 000 personnes par an, entre 15 et 20 000 personnes par an. Et donc, les centres d'accueil sont complètement remplis. Et donc, il y a des collectivités territoriales du centre de l'Espagne qui accueillent dans des centres et qui désengorgent ainsi les Canaries. Une fois arrivés en Espagne, comme ils sont francophones et qu'ils veulent aller le plus souvent vers la France, il y a des fonds européens leur permettant de financer un train jusqu'à Irun, à la frontière basque. Et là, ils passent de manière clandestine vers la France pour essayer de récupérer Paris, parce que c'est effectivement la ville lumière qui attire le plus. Mais à Paris, effectivement, Boubacar nous raconte que c'est une véritable catastrophe, parce que c'est la ville de tous les excès, la ville de toutes les soumissions à l'autorité de certains trafics. Et justement, lui, il a fait vœu de ne pas toucher à l'illicite, à sa grand-mère, et c'est ceux qui vont le protéger. Et c'est là qu'il va descendre à partir d'une chance qui va être la sienne, vers Montpellier, pour ouvrir un magasin de vélos dans la rue Chaptal, à Montpellier.
Voilà. Alors, vous dites qu'il y a des trafics. Bon, là, Boubacar s'est tenu à l'écart des trafics. Mais en même temps, contrairement au discours qu'on entend très souvent dans les médias, hein, il ne faut pas faire ci parce que ça fait appel d'air ou je ne sais quoi. Les motivations d'Antoine comme de Boubacar ne sont pas celles que désignent certains idéologues aujourd'hui.
Bien sûr, c'est des faiseurs d'opinion, mais la vérité statistique, la vérité de terrain nous démontre que Boubacar comme Antoine sont venus pour travailler, sont venus pour s'intégrer dans une communauté et participer de l'effort collectif. Ce qu'il faut, c'est arriver à réussir. N'oublions pas que Boubacar, par exemple, a payé 3000 euros pour son passage et que ces 3000 euros, quand on a 200 euros, 150 euros de revenus moyens dans le mois, ben, c'est bien difficile à trouver. Donc on va monter des tontines familiales. Et quand je dis familiale, c'est la famille élargie, c'est à la fois les amis, c'est à la fois le village, c'est à la fois, quand on est dans des grandes villes, le quartier. Et qui va soutenir l'opération de déplacement, l'opération d'exil du candidat le plus fin, le plus intelligent, le plus tonique, le plus apte à réussir, parce qu'on espère de son départ un retour sur investissement, en disant bien au gamin qui s'en va, attention, on a financé ton départ, mais on attend que tu renvoies de la ressource, parce que tu sais bien qu'ici c'est difficile. Et donc, avec les nouvelles technologies, ils sont confrontés à des demandes permanentes. C'est ce que j'appelle un effet pharmacom. Les nouvelles technologies sont à la fois une solution, parce que ça met en contact avec les pairs, ça explique les endroits qu'il faut suivre, les lieux qu'il faut éviter, ça met en contact, ça laisse le contact avec la famille, ça permet de donner des nouvelles. Ok, ça c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est que les nouvelles technologies amènent une pression permanente. Je parle d'intranquillité, c'est-à-dire que les exilés sont soumis à des pressions. N'oublie pas le petit frère qui vient de rentrer en CP. N'oublie pas ta grand-mère qui est malade, il faut la soigner. N'oublie pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut absolument trouver de l'argent. C'est pour ça qu'ils sont peut-être tentés, s'ils restent dans les grandes villes, par l'argent facile. Il ne faut pas se le nier. Mais lui, justement, veut de ne pas rentrer dans l'illicite à sa grand-mère. Il se maintient à l'écart de tout ça pour essayer de trouver un travail licite, et c'est là qu'il ouvre son magasin de vente et de réparation de vélos dans la rue Chaptal, avec l'aide de personnes amies, de personnes solidaires qui vont l'aider à monter son magasin.
Oui. Et puis, alors, vous, à ce propos, vous évoquez quelque chose, c'est que qu'on ne prend pas forcément en compte, ou dont on n'a pas forcément conscience, c'est que les familles et les milieux, les familles élargies s'étant tellement investies pour permettre à un immigrant d'immigrer, une fois qu'il est là-bas, il est arrivé dans le pays d'accueil, il ne peut pas dire quelles sont ses difficultés. Il doit positiver ce qui lui arrive et tendance à cacher la misère dans laquelle il se retrouve bien souvent.
Oui, la psychologie du migrant veut qu'il démontre toujours ou il cache les échecs et il essaie toujours de montrer qu'il a réussi. Mon grand-père est décédé assez jeune, il avait 65 ans. Et il a connu une faillite avec son entreprise de menuiserie. Et effectivement, il était à une époque où on reconstruisait l'activité touristique, où on construisait l'activité touristique du littoral. Donc on avait besoin de beaucoup de menuiserie, mais à certains entrepreneurs qui ensuite ne réglaient pas leurs factures. Et c'est comme ça que l'entreprise qu'il avait montée, quand il avait monté sa SARL, avait connu une faillite. Et là, il n'a pas accepté du tout cette situation. Il en a eu une crise cardiaque qui l'a mené vers la mort. C'est dire à quel point le désir de réussite est absolu. Il faut absolument montrer qu'on a réussi à la fois à ses voisins, mais aussi à la communauté que l'on a laissée de l'autre côté de la frontière. Et pour Boubacar, c'est pareil, il a le désir, un désir absolu de réussir, à la fois pour lui et à la fois pour les autres. Et ces autres, dedans, il y a la famille qui exerce des pressions. Il faut de l'argent, il faut que tu aies notre seule solution. Il faut donc que tu alimentes le garde à manger, certes, mais aussi que tu facilites les services d'éducation, de santé, pour l'ensemble de la famille élargie.
Alors, donc vous faites le parallèle entre ces deux destins. Puis c'est dans une troisième partie, vous essayez de... Qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de différent. Là, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Qu'est-ce que vous diriez qui apparaît d'un problème mal posé, hein, j'ai envie de dire, c'est la question de l'immigration est souvent mal posée. Comment il faudrait la poser pour pouvoir aborder cette question-là de façon un peu sensée, humaine et efficace?
Oui, parce qu'elle est posée par les coûts, qu'on va s'intéresser à ce que coûte l'arrivée des personnes extérieures. On va s'interroger en essayant de chiffrer, on va s'interroger en essayant de remplir des tableaux Excel. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas forcément se rendre compte de la richesse qui est produite de manière sociale. Par exemple, Boubacar, dans son quartier, est très connu. Boubacar, dans son quartier, est rayonnant. Il accueille, il soutient, il est présent tout le temps, il est ouvert quelle que soit l'heure, et donc à la fois il dépanne les vélos, mais il dépanne aussi la psyché de certains qui se dégradent dans le milieu urbain. Donc il est à la fois un élément de lien social et de production économique. Mais la production sociale ne sera pas comptabilisée, ne sera pas véritablement matérialisée par des chiffres. C'est pour ça que l'entretien semi-directif est essentiel, parce qu'il nous permet de mettre l'accent sur les productions de lien social, sur des productions qualitatives que le tableau Excel va oublier. Donc, oui, véritablement, ce qui me paraît central, c'est qu'il y a un mauvais regard sur la thématique migratoire, parce qu'on ne veut pas l'observer en tant qu'atout, mais qu'on préfère la conserver, ou du moins l'observer en tant que coût.
Ben voilà, c'est une bonne conclusion. Il y aurait encore plein d'autres choses à dire, hein, je crois que vous... Vous évoquez l'intérêt des réseaux de proximité à un moment donné, hein, les familles qui sont déjà là ou les compatriotes qui sont déjà là. Et puis toute cette question de proximité qui est beaucoup plus importante que tous les dispositifs qu'on peut inventer administrativement et financièrement. Mais il y a une question de la proximité. Merci beaucoup, Claudiena. Donc, on encourage les personnes sensibles à ces questions-là à lire votre livre. Donc, D'un exil à l'autre, hein, c'est publié aux éditions Un jour, une nuit, collection Métissage. Et puis, je disais, ça fait suite un peu à vos travaux précédents. Notamment le dernier qui était « Demain commence aujourd'hui ». Hein, vous évoquiez notamment quelque chose que vous aviez déjà travaillé par avant, qui était cette question du « buen vivir », hein, le « bien vivre », qui est un concept élaboré en Amérique du Sud, si je puis dire. Mmh. Et c'est bien, on voit qu'il est, de façon, vous ne l'évoquez pas directement, mais il est au cœur de cet ouvrage, il me semble.
Oui, absolument. Il y a personne qui quitte son pays par plaisir. Si on quitte son pays, c'est parce que la situation est devenue intolérable. C'est parce que la situation au niveau des mœurs, au niveau politique, au niveau économique ou au niveau social de manière générale, est impossible. C'est aussi pour des raisons climatiques. Hein, faut s'attendre à dans les années à venir. La Banque mondiale parle de 216 millions de personnes déplacées à l'horizon 2050. C'est dire à quel point la question climatique sera centrale. Donc apprenons à gérer l'accueil autrement pour repositiver la présence des personnes exilées et les intégrer dans l'activité économique et sociale de notre pays.
Voilà. Et arrêtons de se faire peur avec des chiffres en s'intéressant à l'humain. Merci beaucoup, Claude Liénard.
Merci beaucoup à tous.